Il est là, il s'est installé en studio. Didier Blé est avec moi. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, ça va ?
Oui, ça va. Et toi Didier ?
Oui, une pleine force, c'est le week-end dont nous sommes là pour informer la population de Côte d'Ivoire.
Alors, ce matin, première info, qu'est-ce qu'on aura au journal ?
On focus sur le symposium de la Confédération africaine de football. Et puis on rappelle justement que dans la matinée d'hier, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu en audience le président de la CAF, Patrice Motsepe.
C'est tout de suite. Et c'est dans le journal de 7h.
Partout en Côte d'Ivoire. En ce moment, Canal Plus vous offre 15 jours à tout Canal Plus pour tout réabonnement à votre formule habituelle.
Le journal de 7h. Didier Blé.
Merci d'avoir choisi Radio de la Paix pour vous informer. Bienvenue à tous. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a été reçu en audience par le président Alassane Ouattara hier jeudi, cela en marge du premier symposium technique des entraîneurs de la Confédération africaine de football. Et puis après le rejet de sa demande de modification de l'article 185 du Code pénal nouveau, le PPACI entend déposer un recours auprès du Conseil constitutionnel. Vous entendrez à ce sujet le président de son groupe parlementaire, Hubert Houlaye. Au plan international, au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye dissout l'Assemblée nationale. Les législatives seront fixées au 17 novembre 2024. Vous aurez la revue des titres avec Jean-Claude Comé et puis l'invité de la rédaction. Le tout premier face-à-face tenu mardi dernier entre la démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump nous intéresse. Notre invité ce matin, l'honorable Paledi Maté, est un spécialiste des questions électorales aux États-Unis. Il sera interrogé par Constant Maïlé. Monsieur, bonjour et bienvenue. Présent à Abidjan dans le cadre d'un symposium technique des entraîneurs de la Confédération africaine de football qui se tient les 12 et 13 septembre 2024, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a été reçu en audience par le président de la République, Alassane Ouattara. C'était ce jeudi à sa résidence à Cocody. Junior Cardin.
C'est à 12h ce jeudi que l'audience a débuté pour prendre fin 30 minutes plus tard. Au sortir de ce tête-à-tête, le président Alassane Ouattara est le premier à prendre la parole. Il a signifié à son hôte le bonheur de le retrouver à nouveau.
Je voulais donc recevoir ce matin mon frère Patrice pour le remercier à nouveau d'avoir aidé à organiser ce grand événement. Je dois dire que, bien que ce soit la troisième coupe que la Côte d'Ivoire remporte, cette CAN a vraiment marqué nos concitoyens. C'était un moment exceptionnel et je dois féliciter la FIF et bien sûr notre grande équipe qui a d'ailleurs très bien commencé déjà pour la prochaine CAN.
À son tour, le président de la CAF, Patrice Motsepe, n'a pas tari d'éloges à l'endroit du président Ouattara et du peuple ivoirien pour la réussite dans l'organisation de la dernière CAN.
Avec votre permission, je voudrais exprimer ma profonde reconnaissance au président Ouattara pour son leadership et aussi pour son amour pour le peuple africain. Dans son entièreté. Et aussi, le peuple ivoirien et les peuples africains se sont retrouvés ensemble pour organiser la meilleure compétition dans l'histoire de cette compétition. Et nous voulons dire que nous sommes fiers de ce peuple. Et pour moi, la Côte d'Ivoire est ma maison, c'est mon pays. Merci.
Thank you. Le symposium technique des entraîneurs de la CAF, pour lequel Patrice Motsepe est à Abidjan, se concentrera également sur l'impact de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Ce sera l'occasion d'aborder l'héritage laissé par par cet événement majeur du football africain.
Merci à vous, Junior. Et puis, un peu plus tard, dans la même journée d'hier, ouverture ce jeudi à Abidjan du premier symposium des entraîneurs de la Coupe d'Afrique Cannes 2023. Lors de la cérémonie d'ouverture au palais des congrès de l'Hôtel Ivoire, la Confédération africaine de football a fait un don d'un peu plus de 7 milliards de francs CFA pour le développement du football masculin, également du football féminin ivoirien. Ceci est un acte fondateur de la CAF et le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, dit attendre le cahier de charge de la CAF pour le respect de l'utilisation de ces fonds. On l'écoute.
Je pense que la CAF a posé un acte fondateur aujourd'hui avec cette enveloppe. Il y a un cahier des charges qui va nous être transmis pour respecter donc l'utilisation de ces fonds, à l'image de ce qui est fait déjà avec les fonds de la FIFA. Mais ces fonds sont orientés pour le développement du football des jeunes et du football des jeunes filles, garçons et filles. Donc nous allons mettre en place en accord avec la CAF et ses experts un projet de développement qui va être donc financé par ces ressources. Ça va toucher les infrastructures, le développement dans les académies, les conditions de travail, etc. Donc une fois qu'on aura le cahier des charges, on sera plus précis sur ce qui va être fait. Et pour l'instant, on ne sait pas comment ça va se faire. Il ne faut pas que je vous raconte des histoires, puisque c'est la première fois que cela se fait. Une fois qu'on aura toutes les précisions, mais on pourra aller dans ce. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va être dans l'écosystème du football ivoirien. C'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire que ça va inonder tous les secteurs du football des jeunes et des filles. C'est de là que vient... qu'on comprend les talents et qu'on peut les développer. Donc pour nous, c'est extraordinaire. Mais une fois qu'on aura le cahier des charges, on pourra être plus précis. Il ne faut pas parler de choses qu'on ignore. Je n'ai pas encore le cahier des charges. Et je n'ai pas encore l'argent, je n'ai que le papier. Il faut le dire.
Voilà, vous écoutiez à l'instant Yassine Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, présidé par le docteur Eugène Akawele, a ouvert sa deuxième session ordinaire de l'année 2024 au cours d'une cérémonie officielle au siège de l'institution. Le docteur Eugène Akawele, au cours de cette rencontre, a entre autres insisté sur la nécessité de consolider les acquis économiques et sociaux. Il est au micro de Matatouri.
Au cours de cette nouvelle session, tout en nous inscrivant dans le thème de notre mandature, développement de l'économie sociale et solidaire, par déclinaison du programme du gouvernement La Côte d'Ivoire solidaire, le CESEC exécutera un ensemble d'activités conformément à ses prérogatives, tout en ayant à cœur d'être toujours ce précieux lieu du Haut Conseil de l'exécutif et du législatif. La deuxième session ordinaire nous offre donc l'opportunité, d'une part, de poursuivre l'examen de l'un des thèmes inscrits au programme de la première session et d'aborder l'examen des nouvelles thématiques retenues par des commissions permanentes. Les thèmes choisis s'articulent autour des questions relatives à la lutte contre les changements climatiques, à la lutte contre la vie chère et au renforcement de la décentralisation, préoccupations qui seront au cœur de nos réflexions.
Le docteur Eugène Akawele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Article 185 du Code pénal nouveau, la demande de modification du groupe parlementaire PPACI, Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, vient d'être rejetée par le Conseil constitutionnel. Après avoir été débouté, le groupe parlementaire PPACI revient à la charge et annonce de déposer un recours auprès du Conseil constitutionnel. Sur les raisons qui vont motiver ce recours, écoutons un extrait de la conférence de presse du député Hubert Oulaï, président du groupe parlementaire PPACI.
En se précipitant pour promulguer la nouvelle loi, le président de la République empêche, fait obstruction aux députés et aux sénateurs de saisir le Conseil constitutionnel. Son action viole aussi l'article 113, alinéa 3 de la Constitution, qui dit ceci: les lois relatives aux libertés publiques sont, avant leur promulgation, transmises à l'organisme chargé de la défense des droits de l'homme. Cette obligation de transmission préalable de la loi au Conseil national des droits de l'homme avant sa promulgation a été complètement ignorée par le président de la République. Nous allons déposer effectivement un recours dans les jours prochains, non plus pour attaquer à nouveau l'inconstitutionnalité de la nouvelle loi pénale, mais plutôt pour solliciter l'intervention du Conseil en vue de mettre un terme à cette obstruction délibéré du président de la République à l'exercice du droit de saisine des groupes parlementaires par une annulation simple du décret de promulgation de cette loi pour inconstitutionnalité.
Hubert Houlaï, l'honorable Hubert Houlaï, président du groupe parlementaire PPACI. Utilisation du patronyme Gbagbo. Maître Abiba Touré, la porte-parole de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, a estimé dans un communiqué le vendredi 6 septembre dernier que l'ex-première dame ivoirienne Simone Yves Gbagbo ne devrait plus porter le patronyme Gbagbo, toute chose qui suscite une polémique politique autour de l'utilisation du dit nom par l'ex-épouse. Que dit la loi sur l'usage du nom en cas de divorce? Écoutons à cet effet l'éclairage du docteur Landry Assoumou, il est professeur de droit administratif à l'université Péléphorogon de Korogo.
En droit ivoirien, la question elle est toute simple, c'est-à-dire la dame qui désire conserver le nom de son mari après le divorce a l'obligation de demander l'accord de son ancien mari. Et s'il refuse, elle peut saisir le juge et justifier l'intérêt qu'elle a à garder le nom de son mari. Si la question n'est pas réglée par l'époux, il sera réglé par le juge.
En pareille circonstance, étant donné que ce sont des figures politiques dont il s'agit, un divorce est intervenu. Si l'époux ne donne pas son accord, comme vous le dites, la dame peut saisir le juge, quitte au juge de pouvoir trancher en faveur de la dame si besoin il y a, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire elle va justifier qu'elle est reconnaissable par le patronyme Madame Gbagbo. Il lui reviendra de justifier pourquoi elle a intérêt à garder ce nom. Et ce sera laissé à l'appréciation souveraine du juge.
L'appréciation souveraine du juge qui pourrait peut-être dire oui, favorable ou non, ne pas être favorable, n'est-ce pas?
C'est ça.
Au cas où le juge vient à trancher en faveur de Madame Gbagbo, que peut faire Monsieur Laurent Gbagbo?
C'est une appréciation souveraine du juge. Le juge pas statué en premier et dernier ressort. C'est quelque chose de très courant en Côte d'Ivoire. Effectivement, comme ce sont des figures politiques, ça donne une connotation un peu plus médiatique. Sinon, dans la majorité des cas, les femmes ne reprennent pas le nom de leur mari parce qu'elles envisagent sûrement de se remarier, de reprendre le cours normal de leur vie.
Voilà, c'était le docteur Landry Amoussou, professeur de droit administratif à l'université Péléphorogon-Coulibaly de Korogo. Il était avec Désiré Gapiedan. Actualité internationale. Dans une allocution télévisée à l'adresse de la nation sénégalaise, hier jeudi à 20h, le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale en vertu de l'article 87 de la Constitution. Les Sénégalais sont donc appelés aux urnes le dimanche 17 novembre 2024 pour les élections législatives anticipées. Ce jeudi, donc, le président s'est exprimé quant à la situation politique délicate dans laquelle il se trouve, avec un parlement dominé par l'opposition, à commencer par le camp de son prédécesseur Macky Sall. L'actuel chef de l'État du Sénégal a donc tranché. Selon les règles du Conseil constitutionnel, Bassirou Diomaye Faye devrait donc attendre 2 ans de législature pour pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale. Et puis ce cap a été franchi ce 12 septembre. Le président de la République a annoncé donc cette dissolution. Et puis sans plus tarder, nous allons passer donc à l'invité de la rédaction avant de revenir à la revue de presse. Notre invité ce matin est l'honorable Palé Dimaté, spécialiste des questions électorales aux États-Unis d'Amérique. Et nous le recevons à la faveur du traditionnel débat des deux candidats démocrates et républicains à l'élection du président américain. Débat qui a opposé Kamala Harris pour les démocrates et Donald Trump pour les républicains. L'honorable Palé Dimaté est interrogé par Constant Maïdé.
Honorable Palé Dimaté, bonjour.
Bonjour.
Aux États-Unis, le premier débat a eu lieu entre les deux candidats, Donald Trump et Kamala Harris, c'est-à-dire les républicains et les démocrates. Quelles sont vos impressions à l'issue de ce débat, ce premier débat?
Je salue d'abord la hauteur du débat. C'est un débat de qualité et un débat teinté d'esprit démocratique et un débat teinté de la culture démocratique aussi.
Pour vous qui connaissez bien le processus électoral aux États-Unis, quels sont les enjeux d'un tel débat?
Ce débat est capital en ce sens que c'est à partir de ce débat que les électeurs vont se déterminer. Surtout ce qu'on appelle les indécis. À partir de ce débat, qui est un débat majeur, les indécis surtout vont se déterminer. Et même certaines personnes qui sont dans le premier temps d'un autre parti peuvent, à partir de ce débat, décider de voter.
Ils peuvent basculer.
Voilà, ils peuvent basculer.
Après ce débat donc, à quoi il faut s'entendre dans ce processus électoral aux États-Unis?
Pour l'heure, nous pouvons dire que Kamala Harris est en avant de quelques points après ce débat. Je pense que déjà, lors de la convention, il y a près de 14 importants et de grands cadres républicains qui ont décidé de la soutenir. Et aussi, il y a Taylor Swift, cette actrice importante, qui aussi a décidé d'appeler à soutenir Kamala Harris. Donc je dis que ce débat-là n'a pas été trop en faveur de Donald Trump.
Est-ce qu'il en aura encore d'autres, les débats?
Oui, Kamala Harris a demandé qu'il y ait un autre débat. Je ne sais pas si Donald Trump va accepter, mais il gagnerait à accepter un autre débat pour pouvoir se rattraper. Parce que ce débat avec les points d'achoppement, à savoir l'immigration, l'avortement, l'économie, ces trois points-là ont tourné un peu en faveur de Kamala Harris. Vous voyez que les républicains sont contre l'avortement et les démocrates sont pour l'avortement. Donc, beaucoup de femmes vont soutenir Kamala Harris parce que les femmes-là, bien sûr, aimeraient vraiment être libres de disposer de leur corps. Et bien sûr, de l'autre côté aussi, vous le savez, Donald Trump est un quelque chose, c'est-à-dire que quelqu'un qui a le verre, qui parle, donc aussi a réussi à convaincre un certain nombre de personnes. Mais je dis que pour l'heure, sans parti pris, Kamala Harris est en avance. Et la preuve palpable de cela, c'est le basculement de Taylor Swift, une grande actrice qui compte beaucoup, qui a beaucoup d'admirateurs, qui a décidé également de voter pour Kamala Harris.
Avant le rendez-vous final de novembre, c'est-à-dire la date des élections, est-ce qu'il y a encore des rendez-vous importants dans ce processus long des élections américaines?
Il y a encore des meetings qui vont continuer. Kamala Harris va continuer ses meetings. Donald Trump également. Chacun va continuer parce qu'ils ont encore un mois pour convaincre, pas seulement même les indécis, mais même au niveau, au sein de leur parti, pour convaincre leurs militants. Et convaincre, bien sûr, comme je le disais tantôt, les indécis, et aller dans les états les plus importants où il y a beaucoup de votants, tels que la Californie. Dans un mois, les choses peuvent basculer en faveur de l'un ou de l'autre. Mais pour l'heure, Harris semble être en avant.
Mais aux États-Unis, quand on parle des indécis, ça veut dire quoi, les indécis? Ils représentent quoi?
Oui, ils ont quand même une importance parce qu'ils sont nombreux, ces indécis. Ce sont des états où soit le parti n'est pas implanté là-bas, parce que vous savez que, contrairement à ce que les gens pensent, il n'y a pas que deux partis aux États-Unis. Mais le système de scrutin uninominal à un tour fait qu'on voit deux partis, les républicains et les démocrates. Mais il y a d'autres partis, des petits partis. Et il y a des gens qui ne font pas partie d'un parti. Donc ceux-là, comme ils n'appartiennent pas à un parti, ou alors ils sont plus simplement des sympathisants, c'est à partir de la conviction qu'ils auront par rapport au projet de société de chaque candidat qu'ils vont décider à la dernière minute de voter tel ou tel candidat. C'est pour cela que la conquête de ces états qu'on appelle des états où se trouvent des indécis, cette conquête-là est tellement importante parce que c'est ça qui peut faire la différence au niveau des élections, le jour des élections en novembre 2024.
Principalement, pour parler du candidat Donald Trump, il n'est pas toujours devant dans les sondages et à la limite, il finit par gagner les élections. Alors, quelles sont ses chances?
Donald Trump appartient au grand establishment, c'est-à-dire les riches, etc., les grandes sociétés, les grandes entreprises aux États-Unis, la plupart de ces entrepreneurs-là, de ces hommes d'affaires-là sont républicains. Et la preuve, les milliardaires de Silicon Valley ont basculé en faveur de Donald Trump après le débat entre Biden et Donald Trump. Donc ça, ça compte beaucoup. Et puis vous savez aussi, la communauté blanche, sans parler de racisme, la communauté blanche quand même, une grande partie qui soutient Donald Trump. C'est que Donald Trump combat, à savoir l'immigration clandestine, il y a beaucoup de gens qui soutiennent cela. Et ensuite, contre l'avortement, des pasteurs, des grandes églises aussi, qui sont contre l'avortement. Donc, ça fait qu'il a beaucoup de voix aussi. L'Amérique conservatrice, très conservatrice, est avec Donald Trump.
Honorable Palais Dimaté, merci d'avoir accepté de répondre aux questions.
Merci aussi, je suis à votre disposition.
Constant Maillet recevait l'honorable Palais Dimaté, justement, entretien relatif au tout premier face-à-face tenu mardi dernier entre la démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump. Entretien qui fait suite pour la suite justement à la présence de Jean-Claude Comé pour la revue des titres. Jean-Claude, bonjour.
Bonjour Didier, bonjour à tous. L'actualité traitée par les journaux a une forte dominance footballistique ce vendredi, avec notamment cette décision du tribunal arbitral du sport qui a rendu sa décision dans le litige opposant le club ISCA à la FIF, la Fédération Ivoirienne de Football. Et bien commentant les décisions du tribunal arbitral du sport, Supersport fait référence à la Bible et parle de jugement à la Salomon du TAS en déclarant que l'ISCA a gagné, mais l'Africa, qui avait bénéficié de la décision de la FIF, n'a pas perdu. Pour le jour plus, par sa décision, le TAS jette une patate chaude dans les mains de la FIFA, à qui il est désormais demandé d'intégrer ISCA dans le championnat de la Ligue 1, alors que l'Africa Sport d'Abidjan y est à l'issue des résultats du match Yamoussoukro FC et ISCA réjoué le 26 juin dernier. La FIFA est dans un vrai dilemme dans cette affaire, estime la Nouvelle Alliance, quand le sursaut, en attendant la décision que va prendre la Fédération ivoirienne de football, se demande si l'Africa sera rétrogradée en Ligue 2. Dans l'attente de l'issue de cette affaire, les acteurs africains du sport sont, eux, en réflexion à Abidjan dans le cadre d'un symposium pour faire le bilan de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire. Et déjà, comme retombé, annonce le rassemblement, la CAF, la Confédération africaine de football, offre plus de 8 milliards de francs CFA à la FIFA. Information que confirme Supersport. Fatin Tematin, rendant compte donc de cette rencontre à Abidjan, indique que le président de la CAF en a profité pour échanger hier avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Selon l'avenir, lors de cette audience, le président de la CAF a magnifié le leadership du président Ouattara. Et puis la question de commercialisation du cacao. Bientôt, en octobre, on connaîtra le nouveau prix du kilogramme et c'est en prélude à cette rencontre que le Conseil Café Cacao a échangé avec les acteurs et cette rencontre est qualifiée selon le Nouveau Réveil de face à face hier entre le directeur général et les paysans. Ça a été des échanges de vérité, commente l'Inter, et Soir Info donc dit qu'il ressort de cet échange que le directeur général du Conseil Café Cacao, Yves Brahima Kone, a annoncé de bonnes nouvelles à venir, en tout cas dans les quelques jours. Et puis certains journaux comme Le Temps et la Nouvelle Alliance parle d'une marche projetée se tenir ce vendredi. Cette marche contre la cherté de la vie est organisée par l'ONG AGIP et est prévue donc pour ce jour, précise la voix originale. Mais le Nouveau Réveil se demande si les 70 ONG qui composent AGIP donc pourront marcher comme prévu. Attendons de voir.
Merci à vous Jean-Claude. Et puis je rappelle qu'on vous retrouve dans le prochain journal. C'est la fin de cette édition, le rappel des titres. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a été reçu en audience par le président ivoirien Alassane Ouattara hier jeudi, cela en marge du premier symposium technique des entraîneurs de la Confédération africaine de football. Après le rejet de sa demande de modification de l'article 185 du QPACI, entend déposer un recours auprès du Conseil constitutionnel. Vous avez entendu le président de son groupe parlementaire, Hubert Houlaye. Et puis, de chez nous au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye dissout l'Assemblée nationale des législatives fixées au 17 novembre 2024. On se retrouve à 8h pour la deuxième édition de la matinée. D'ici là, Mel Emmanuel est avec vous pour les matins de la paix.